Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer avec quelques questions au début du sermon ce matin. J'y ai déjà fait allusion pendant les annonces à propos de votre logement pendant cette première nuit. Comment trouvez-vous votre logement temporaire ici à la fête, quel que soit le logement dans lequel vous soyez? Votre logement est-il moins confortable par rapport à ce que vous avez chez vous? Y a-t-il du bruit dans le couloir? Peut-être cela affecte-t-il votre sommeil? Ou au contraire, avez-vous énormément de place? Peut-être êtes-vous dans un lieu où il est un peu difficile de vous mettre à genoux pour vos prières? Il n'y a pas beaucoup d'espace? Le logement est-il un peu trop chaud ou au contraire un peu trop froid? Peut-être partagez-vous le logement et il y a des problèmes d'espace avec la famille avec vous. Vous partagez peut-être une salle de bain pour tout le monde. D'habitude, peut-être que vous avez plusieurs salles de bain pour les parents, les enfants, pour les frères et sœurs. Peut-être devez-vous partager une chambre avec un frère ou une sœur ou un membre de la famille, alors que d'habitude vous avez votre propre chambre. Nous avons tous des logements différents, des logements par rapport au logement dans lequel nous vivons habituellement. Je suis conscient que certains d'entre vous, cette année, doivent garder la fête tabernacle à domicile. À cause des circonstances, vous ne pouvez pas vous réunir avec le groupe cette année. Mais s'il n'y avait pas eu ce problème de Covid-19, nous serions tous dans des logements temporaires actuellement, pendant les 8 jours de la fête et le dernier grand jour. Peu importe là où nous vivons, ce n'est pas la même chose que notre domicile, que notre maison ou que notre appartement. Et Dieu le sait. Dieu est parfaitement conscient de cet état de fait. En réalité, Dieu a prévu que ce soit le cas. Car c'est une des leçons que nous devons apprendre pendant cette fête, le fait d'être absent et éloigné de nos maisons. Veuillez vous reporter avec moi à Lévitique 23, à partir du verset 39, pour nous rappeler ce que nous faisons ici et quelques aspects clés que Dieu a prévus pour nous pendant cette fête. Il nous instruit comme il a instruit les Israélites. Dans Lévitique 23, à partir du verset 39. Lévitique 23, 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e sera un jour de repos. Le premier jour cette année est également un sabbat annuel. Verset 40, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Pendant 7 jours, tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. Notez qu'il y a une leçon à apprendre pour les descendants également. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous voyons aussi que dans les Écritures, cette fête est aussi appelée la fête des cabanes, la fête des tentes, cabane ou tente, ce mot hébreu est souka. S-U-2-K-A-H. Il se traduit par tente, par cabane, ou par un pavillon, une demeure temporaire. C'est une demeure temporaire dans laquelle Dieu nous demande de vivre. À l'époque antique, dans la Bible, c'était souvent fait avec des branches d'arbres, mais il pouvait aussi s'agir d'une sorte de hutte qui était construite rapidement. Par exemple, les bergers, quand ils allaient dans les champs, ou les soldats, ceux qui allaient faire de la cueillette, ou ils partaient parfois plusieurs jours en forêt dans la semaine, et ils dormaient dans une sorte de hutte, de cabane. De nos jours, nous observons la fête sous des climats très différents. Nous avons des frères et sœurs. Je n'ai pas encore lu les nouvelles du Canada, mais je sais qu'au Canada, nous avons des frères et sœurs qui ont un climat très défavorable pour dormir à l'extérieur à cette époque de l'année. Particulièrement dans le nord du Canada, à cette époque de l'année où il peut neiger. Nous vivons dans des demeures temporaires. C'est un fait. Dans le passé, certains frères et sœurs ont dormi dans des tentes réelles, certains dans des caravanes, dans des gîtes, dans des chambres d'hôtel, dans des chambres d'hôtes. Ou cette année ici en France, dans un vacanciel. Mais quel que soit notre logement, c'est un logement temporaire, ce n'est pas notre domicile. Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de quitter notre domicile dans cette société et de nous rassembler devant lui? Que Dieu veut-il nous apprendre en passant 8 jours dans une cabane ou une demeure temporaire? Le but de mon sermon ce matin est de tirer quelques leçons du fait de vivre dans des cabanes ou des logements temporaires. Si vous voulez un titre pour le sermon, Les leçons d'un logement temporaire. Les leçons d'un logement temporaire. Il y a une raison et un but derrière tout ce que Dieu nous ordonne. Une raison et un but, lesquels? Comme avec tous les autres jours saints annuels, il y a une leçon et un but. Il y a des choses à apprendre. Par exemple, pendant la Pâque, nous devons nous laver les pieds les uns des autres. C'est une chose physique que nous devons faire. Puis nous mangeons des pains sans levain pendant 7 jours. Le jour des expiations, que nous avons observé il y a quelques jours, nous avons reçu l'instruction de jeûner. Ce sont des choses physiques qui nous aident. Ce sont des choses qui nous aident, et comme cela est mentionné dans un sermon au début de la fête, déjà, les choses physiques nous aident à solidifier, à renforcer des choses spirituelles. Nous apprenons par la pratique. Cela nous aide à augmenter notre compréhension. Car nous mettons les choses en pratique, nous apprenons par l'action, par le fait de faire quelque chose. Nous devons nous agenouiller, par exemple, pour laver les pieds de nos frères et sœurs pendant la Pâque. Il y a une action. Et ces actions renforcent les leçons que Dieu veut que nous apprenions. Nous allons voir dans le sermon, ce matin, des leçons issues du fait de vivre dans des demeures temporaires. J'ai 6 points pendant ce sermon. Je vous donnerai aussi quelques devoirs à la maison pour que vous trouviez un 7e point. Vous pourrez faire ça peut-être après l'assemblée aujourd'hui. Mais commençons avec le premier point des leçons de vivre dans des logements temporaires. Dieu nous instruit dans Lévitique 23, verset 43, que le but de rester dans ces tentes ou ces cabanes est de nous souvenir que Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Le premier point pour aujourd'hui est que notre héritage n'est pas de ce monde. Notre héritage n'est pas de ce monde. Veuillez vous reporter maintenant à Hébreux 11. Nous allons retracer l'histoire des Israélites lorsqu'ils étaient dans des tentes, dans des cabanes. Nous allons voir maintenant dans Hébreux 11, à partir du verset 8. Nous allons donc voir cette histoire des Israélites. Avant même qu'ils reçoivent une nation. avant qu'il grandisse à partir de la famille de Jacob, il nous est dit que Abraham, Isaac et Jacob ont aussi vécu dans des demeures temporaires. Nous lisons ici, au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ensuite, au verset 13, Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au verset 9, l'expression disant qu'il s'établir dans la terre promise serait idéalement traduite qui a séjourné dans la terre promise. Ce serait la bonne traduction. Au verset 13, quand cela parle d'étrangers et de voyageurs, cela peut aussi signifier un résident étranger, quelqu'un qui est expatrié. Ma famille et moi avons vécu aux États-Unis. À l'époque, je travaillais comme ingénieur avant de travailler pour l'église, et quand nous étions là-bas, nous avions dû avoir une carte verte, mais nous étions recensés par le gouvernement américain comme des étrangers qui résidaient aux États-Unis. Et lorsque vous avez ce statut, vous avez le droit de travailler, mais c'est un statut temporaire, vous ne faites pas partie du pays. Ici, dans l'Union européenne, il est désormais beaucoup plus facile de voyager entre les pays. Mais dans le passé, il y avait aussi ces restrictions entre les différents pays. Donc Abraham, Jacob, Isaac étaient étrangers dans le pays. Ils n'avaient pas encore reçu l'héritage que Dieu leur avait promis. Mais ils savaient ce qui les attendait, et c'est ce qui les attendait. Ils ne cherchaient pas. Ils ne cherchaient pas à avoir des maisons en briques et en pierre comme les maisons environnantes. Ils cherchaient quelque chose qui allait bien au-delà de ça. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et cela parle ici, bien entendu, de la Nouvelle Jérusalem. La terre promise, c'était une chose physique. Et ils pensaient à ces choses-là, puisqu'avant ils avaient vécu dans des tentes. Cela étant, ils savaient qu'ils étaient seulement héritiers des promesses. Ils n'avaient pas encore hérité les promesses ultimes. Et nous avons les yeux fixés sur la même promesse. Nous avons les yeux fixés sur la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est la première leçon que nous pouvons apprendre du fait de vivre dans des demeures temporaires, que notre héritage n'est pas de ce monde. C'est une situation temporaire. Cela ne va durer que 8 jours, ici, puis nous allons rentrer chez nous. C'est une demeure temporaire. En observant cette fête, nous reconnaissons ce fait. Nous reconnaissons le fait que nous cherchons quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et c'est mon premier point. Deuxièmement, la deuxième leçon à apprendre des demeures temporaires est de ne pas oublier Dieu. De ne pas oublier Dieu. Comme les Israélites l'ont fait, les descendants de Jacob sont devenus un très grand peuple et ils ont aussi vécu dans des demeures temporaires au désert. Nous avons entendu parler pendant la sermonnette des leçons d'avoir marché dans le désert. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. Quelle était l'intention de Dieu pour ces Israélites? Quelles étaient ses intentions quand ils ont atteint la terre promise et qu'ils ont commencé à observer la fête des tabernacles? C'est pour qu'ils se souviennent de ces années au désert, qu'ils se souviennent que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Et quant à nous, Dieu nous a appelés, nous sommes sortis d'une Égypte spirituelle. Dieu nous a appelés hors de ce monde. Nous sommes donc sortis de cette Égypte spirituelle qui représente, qui symbolise le péché. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Chaque année, pendant les jours des pains sans levain, Dieu veut que nous nous rappelions la signification de mettre le péché à l'écart. Mais ces leçons se poursuivent jusqu'aux fêtes d'automne. C'est un grand plan unifié. C'est une vue d'ensemble et Dieu veut que nous apprenions toutes ces leçons du passé et que nous ayons les yeux tournés vers l'avenir. Et Dieu ne voulait pas que les Israélites oublient ces leçons une fois qu'ils ont atteint la terre promise. Dans Nombre, au chapitre 9, veuillez vous reporter à Nombre, chapitre 9, nous avons ici des leçons des Israélites lorsqu'ils traversèrent le désert. Au cours de la première année, ils avaient la tente avec le tabernacle et il y avait une colonne, une nuée au-dessus du tabernacle. Dans Nombre 9, au verset 15, nous voyons ici que ce qu'il se passa lorsque les Israélites étaient dans le désert. Verset 15, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël passaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Dieu était là chaque jour. Lorsqu'ils se levaient le matin et qu'ils ouvraient l'entrée de la tente et qu'ils regardaient en direction du tabernacle, ils voyaient s'ils devaient partir ou non ce jour-là, s'ils devaient démonter leur tente et faire leur bagage. Quand ils voyaient que la nuée commençait à bouger, ils savaient qu'ils devaient partir. Et ils savaient cela en regardant la nuée au-dessus du tabernacle. Il y avait aussi des trompettes leur notifiant qu'ils devaient partir. Lorsque nous pensons à notre situation dans nos demeures temporaires pendant la fête, j'espère que nous n'oublions pas Dieu. Nous avons du temps supplémentaire pour étudier, pour prier. Lorsque nous considérons notre situation physique pendant la fête, au cours de ces 8 jours, trouvez-vous que vous seriez prêt demain à partir dans un autre lieu si demain matin, par exemple, on nous disait « Vous devez partir sur un autre lieu ». Vous diriez probablement « Oui, ma valise est prête, j'ai mes vêtements, tout ce dont j'ai besoin, je suis prêt à partir demain ». Et pourquoi serions-nous prêts à faire cela? Parce que nous sommes actuellement dans les demeures temporaires. Et nous nous focalisons sur Dieu, nous sommes ici pour observer la fête de Dieu. Nous reconnaissons que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous reconnaissons, pour ceux d'entre nous qui sont baptisés en tout cas, nous reconnaissons que nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Nous avons reçu un consolateur qui nous aide à comprendre la vérité et qui nous guide, tout comme la colonne de nuée dirigeait les anciens Israélites, nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Par exemple, dans Romains 8, au verset 14, nous voyons que si nous nous soumettons à cet Esprit qui nous guide, nous nous laissons guider par lui, nous sommes fils de Dieu. Israël n'était pas abandonné par Dieu. Il pouvait voir ce nuage, cette nuée chaque jour. De la même façon, nous ne sommes pas seuls. Les Israélites étaient héritiers de la terre que Dieu leur avait promise. Mais nous avons également un héritage éternel. Veuillez vous reporter à Deutéronome 8. Nous allons voir ici un avertissement que Moïse donna aux Israélites dans le contexte des 40 années passées au désert, pour se rendre jusqu'à la terre promise, avant de s'installer dans un pays où coulait le lait et le miel. Parfois, ce n'est pas une bonne chose d'avoir trop de confort, car souvent, nous commençons alors à oublier Dieu. Et c'est l'avertissement que Dieu donna ici à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il voulait qu'ils reconnaissent que les choses physiques étaient temporaires. Dans Deutéronome 8, à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Et Dieu fait la même chose avec nous pendant notre vie physique. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus avait repris ces paroles lorsqu'il fut tenté par Satan. Il répondit à Satan, « L'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 4, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. » Dieu montre ici comment il a humilié les Israélites. C'est le même mot « Anna », A-N-A-H en hébreu, qui signifie affligé ou jeûné. C'est peut-être quelque chose que nous éprouvons lorsque nous jeûnons pendant les expiations. Nous sommes testés, nous sommes éprouvés. Et de la même façon, les Israélites furent éprouvés, testés, pour reconnaître qu'ils avaient besoin de Dieu pour recevoir la manne chaque matin, l'eau de la part de Dieu. Car sans ces aliments, ils n'auraient pas survécu très longtemps. Leur situation était très précaire. De la même manière, notre vie physique est une situation très précaire. Et cette précarité est la même que celle des enfants d'Israël. Sans les aliments, sans l'eau, nous mourons, nous ne pouvons pas survivre. Au verset 6, à présent, Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Notez bien, c'est le pays qu'il t'a donné. Cette terre promise, donnée par Dieu, était constituée de bénédictions physiques, de la même manière que le millénium concentrera beaucoup de bénédictions physiques, la période que nous célébrons actuellement. Mais il y a des avertissements. Notez au verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Tu dois bénir qui? L'Éternel. Autrement dit, souviens-toi que toutes ces choses viennent de Dieu. Lorsque nous commençons à vivre dans le confort, il est très facile d'oublier Dieu, et très rapide. Nous avons la tendance humainement de faire cela, chaque être humain. Mais nous devons nous souvenir de l'origine des bénédictions. Nous devons être focalisés sur le royaume de Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés sur le roi de ce royaume également. Nous ne devons pas oublier l'Éternel. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. C'est de cela dont Dieu veut que nous nous souvenions pendant la fête de tabernacle. Verset 15, « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Le but ultime de Dieu était de faire du bien aux enfants d'Israël. Nous voyons au verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'est peut-être une situation dans laquelle nous avons tendance à être, de dire que cette richesse que j'ai est le fruit de mon travail. Mais en faisant ça, nous oublions Dieu. Les Israélites ne devaient pas oublier que c'est Dieu qui les avait nourris, c'est Dieu qui les avait protégés. Et ils n'ont pas compté à 100% sur l'Éternel, sur Dieu. Toutes les choses physiques sont temporaires. Et elles viennent de Dieu. Verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Et nous avons le reste du récit qu'ont fait les Israélites une fois qu'ils sont allés en terre promise. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Et maintenant, en avançant dans le temps, des milliers d'années plus tard, les nations israélites modernes ont fait exactement la même chose. Nous oublions la fragile condition physique des choses qui nous entourent. Nous avons oublié Dieu, nous avons rejeté ses lois. Chacun fait ce qui est juste à ses yeux. Et Dieu mettait en garde que ces choses-là pouvaient se produire, et ces prophéties sont aussi valables pour la fin des temps. À travers l'histoire de l'humanité, nous avons beaucoup de récits et d'exemples destinés à nous servir de leçon. Nous voyons cela par exemple dans 1 Corinthiens 10 au verset 11. Tout ce qui est arrivé à nos ancêtres est arrivé pour notre exemple. Nous devons apprendre de ces leçons. Et la deuxième leçon pour aujourd'hui est de ne pas oublier Dieu. À présent, le troisième point est que nous devons nous séparer de l'influence du monde. Se séparer de l'influence du monde. Veuillez vous reporter à 1 Pierre 2 au verset 11. 1 Pierre 2, 11. Et souvenez-vous que les véritables chrétiens aujourd'hui sont étrangers et voyageurs dans cette vie physique, tout comme l'étaient Abraham, Isaac et Jacob. 1 Pierre 2 au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Notre comportement, notre conduite, notre travail, à la maison, à l'école, à l'université, où que nous soyons dans le monde, si notre conduite glorifie Dieu, car notre conduite reflète l'obéissance à Dieu, alors que nous vivons dans ce désert spirituel autour de nous, mais en faisant attention de ne pas faire partie de ce monde, alors nous obéissons à Dieu et nous glorifions Dieu par notre exemple, en étant séparés du monde. Encore une fois, nous sommes héritiers de choses à venir. Nous sommes héritiers d'une demeure permanente et éternelle, spirituelle. Et à la fin de l'histoire humaine, ce sera la Nouvelle Jérusalem. Un autre verset à noter au sujet de la séparation de l'influence du monde est Apocalypse, chapitre 18 et au verset 4. Apocalypse 18, verset 4, un verset que nous connaissons très bien. Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Pendant cette fête, nous sommes séparés du monde. Nous avons quitté notre domicile. La plupart du temps, encore une fois, je suis conscient que cette année, en raison des circonstances, certains membres n'ont pas pu quitter leur domicile. Mais pendant une année normale, sans cette pandémie de Covid, l'immense majorité d'entre nous quittons notre domicile. Nous nous retrouvons dans des demeures temporaires pendant 8 jours. Nous sommes loin de notre environnement habituel, de notre environnement quotidien. Nous sommes loin, par exemple, des emails du travail. Je l'espère. Nous sommes loin de notre travail. Nous sommes éloignés de l'influence négative autour de nous, comme cela a été mentionné dans un précédent message. À moins que nous amenions tout cela avec nous à la fête. Et c'est très facile à faire de nos jours avec les appareils portables que nous avons. Mais nous devrions être éloignés de l'influence négative du monde et nous focaliser sur la fête. Nous focaliser sur la paix autour de nous. Une paix qui existera lorsque Satan sera lié et que seule l'influence de Dieu régnera sur ce monde. La fête devrait nous donner du temps, notamment. Devrait nous donner du temps de méditer à cette époque, de nous approcher de Dieu. Cela devrait être un point culminant de l'année. Nous devons sortir de la routine quotidienne, des soucis de ce monde, afin de pouvoir être ici et nous focaliser sur le but que Dieu a pour nous dans notre vie. Comment nous pouvons atteindre ce but? Savoir ce que Dieu attend de nous pour atteindre ce but. Ce qu'il attend de nous afin que nous entrions dans la vie éternelle, que nous partagions le même esprit. Afin de partager tous le même esprit, l'esprit de Dieu. Alors que nous sommes ici dans ces demeures temporaires, nous devrions également nous couper temporairement du monde, dans nos logements ici. La quatrième leçon à apprendre pour aujourd'hui, est que notre corps temporaire est fragile. Notre corps temporaire est fragile. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, 2 Pierre 1, et à partir du verset 12. Versets 12 à 15. Ici, Pierre nous encourage à affermir notre appel. Et un des aspects pour affermir notre appel est de reconnaître que la vie physique est temporaire et fragile. Dans 2 Pierre 1, 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce que Pierre dit ici, c'est que vous avez déjà entendu ces choses, mais il faut vous les rappeler pour que cela reste en permanence avec vous, que vous soyez vigilants en tout temps. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et il continue ensuite au verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai, cette tente, je sais que je la quitterai subitement, c'est un symbole pour son corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Dans ce passage, Pierre, il a écrit ce passage vers la fin de sa vie. Dans ce passage, il comparait le corps physique à un tabernacle, à une tente. Il reconnaissait, comme cela est écrit dans la Genèse, que la poussière retournera à la poussière. Et il a été donné aux hommes une seule fois de mourir, dans Hébreux 9, verset 27. C'est seulement en recevant l'Esprit de Dieu qu'une personne peut survivre à la vie physique. Qu'elle peut espérer vivre éternellement. Mais en attendant ce corps spirituel à venir, notre corps physique aura toujours des faiblesses, des imperfections, des douleurs, des blessures. En fait, ce corps subsiste juste suffisamment longtemps pour pouvoir servir Dieu pendant cette vie physique et bâtir le saint caractère que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Mais c'est un corps physique temporaire. Et de la même manière, en restant dans les logements temporaires pendant cette fête des tabernacles, le peuple de Dieu se souvient de cette connaissance importante. C'est un parallèle, un rappel que la vie physique est également temporaire. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Comme nous l'avons évoqué plus dans ce sermon, des voyageurs, des étrangers. Veuillez vous reporter à présent à 1 Chronique, Le premier livre des chroniques. Nous allons lire ici au sujet du roi David. Et il s'exprimait au sujet de la vie, des bénédictions et de la brièveté de la vie. Il parlait de l'air dont nous respirons maintenant, même si nous respirons à travers un masque, ce qui est une expérience très différente, mais nous respirons quand même cet air pour pouvoir vivre. Je me suis d'ailleurs rendu compte à propos du masque, quand vous le mettez au niveau des oreilles, du nez, du menton, en portant ce masque, nous nous sommes rendus compte aussi quelle était la vraie physionomie de notre visage. Je ne m'étais jamais rendu compte, par exemple, que mes oreilles étaient aussi éloignées de mon nez. Avec beaucoup de masques ne me vont pas parce qu'ils sont trop petits à cause de cela. Mais bon, revenons à 1 Chronique, chapitre 29 et au verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il s'agit ici d'une référence à tous les dons qui avaient été faits pour la construction du tabernacle. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Mais il y a des avertissements. Notez au verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Tu dois bénir qui? L'Éternel. Autrement dit, souviens-toi que toutes ces choses viennent de Dieu. Lorsque nous commençons à vivre dans le confort, il est très facile d'oublier Dieu, et très rapide. Nous avons la tendance, humainement, de faire cela, chaque être humain. Mais nous devons nous souvenir de l'origine des bénédictions. Nous devons être focalisés sur le royaume de Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés sur le roi de ce royaume également. Nous ne devons pas oublier l'Éternel. Et nous allons lire ici à partir du verset 5. Psaume 39, verset 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Regardez quelle est la largeur d'une main. Et comparez cela à la longueur de la vie devant Dieu. C'est insignifiant en comparaison à la taille de la main. Ce matin, au petit déjeuner, nous parlions avec quelques membres de la différence entre les mesures impériales et métriques, entre les mains, les pieds et les centimètres ou les mètres. Regardez la taille d'une main par rapport à la taille d'une vie. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Au verset 6, ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Verset 7, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. David, dans ce passage, écrivait à propos de la brièveté de la vie. Alors que nous prenons de l'âge, nous en rendons compte bien davantage. Mais nous reconnaissons bien ce fait, nous en sommes conscients. Dans Ecclésiaste 12, vous n'avez pas besoin de vous y reporter. Mais dans Ecclésiaste 12:1, il est écrit de se réjouir dans la jeunesse. Beaucoup d'entre nous avons passé l'âge de la jeunesse. Nous sommes dans l'église depuis 10 ans, 20 ans, 30, 40, même plus pour certains. Et nous avons entendu ces paroles quand nous étions jeunes. C'était mon cas, j'ai assisté à ma première fête des tabernacles quand j'étais jeune et j'ai entendu ces mots pendant plus de 40 ans. Et maintenant, parfois, je regrette de ne pas avoir écouté davantage ces paroles-là pendant ma jeunesse. Vous qui écoutez aujourd'hui, et qui êtes adolescents, ou jeunes adultes, pensez bien que la vie est fragile, qu'elle est courte, qu'elle est précaire. Nous devons établir une bonne relation avec Dieu dès maintenant. Plus tôt nous le faisons, mieux c'est. Nous devons comprendre. Nous devons être conscients et nous devons mettre en place une relation personnelle avec Dieu le plus tôt possible. Il n'y a pas d'âge minimum pour cela. Nous avons une fille qui a 26 ans qui commence à avoir quelques cheveux gris déjà. Et ils arrivent très tôt. Elle n'a pas eu à attendre les 50 ans pour avoir les cheveux gris. Vous pouvez également noter le psaume 103 au verset 15 et 16. Ce psaume écrit que la vie de l'homme est comparable à une fleur qui fleurit et fane le jour même, dans psaume 103 verset 15 et 16. À présent, veuillez vous reporter au psaume 90. C'est un psaume qui est attribué à Moïse. Le psaume 90 est à partir du verset 10. Un psaume qui a été préservé toutes ces années et compilé ici dans le psaume 90. Et cela parle de la nature temporaire de la vie. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La durée de vie moyenne des êtres humains est de 70 ans, généralement un peu plus pour les femmes. Et cela nous aide aussi à réaliser la fragilité de notre existence. Peu importe où que vous soyez, tout le monde est affecté par les maladies, la souffrance. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle Dieu nous permet parfois de traverser ces problèmes de santé, ces difficultés. Certains ont des maladies en phase terminale. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tous une existence avec une durée limitée. Nous sommes tous mortels. Nous ne vivrons jamais éternellement dans ce corps. Et pendant cette vie, nous devons nous qualifier pour l'avenir, pour la vie éternelle. Veuillez vous reporter à présent dans Jacques au chapitre 4. Les versets 13 à 15. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous ne devrions pas supposer que nous avons une longue vie devant nous. Nous devrions quotidiennement mettre notre vie entre les mains de Dieu en cherchant sa parole, en cherchant sa volonté. La Bible nous rappelle la brièveté de l'existence physique. Et cela nous est rappelé chaque année lorsque nous sommes dans des demeures temporaires pendant la fête. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous présent ici n'habite sous une tente réelle pendant cette fête ou une cabane réelle. Mais nous savons qu'une tente ou une cabane n'est pas un bâtiment destiné à durer indéfiniment. Ce n'est pas un bâtiment permanent, c'est un bâtiment temporaire. Paul faisait de son métier la vente de tentes, confection et vente de tentes. Il savait bien de quoi il parlait. Une tente ne va pas durer 100 ans. Les tentes doivent être démontées, remontées, etc. Pendant les camps des jeunes, il y a parfois des tentes pendant les camps. Je me rappelle à l'époque de l'Église universelle, il y avait le You en... et j'avais été à un camp en Écosse. 45 semaines par année, ce lieu était un pâturage pour les moutons. Et 5 semaines pendant l'année, ça devenait un camp pour 1300 jeunes. C'était un champ de tentes qui s'élevait dans ces pâturages. Et à la fin du camp, toutes les tentes étaient démontées, tout était emporté. Et ça redevenait un pâturage 45 semaines pour les moutons. Et il y avait un lore en Écosse, juste à côté. Et nous étions dans des demeures temporaires. La quatrième leçon à retenir était donc que nos corps temporaires sont fragiles. Ne vous inquiétez pas, les deux derniers points sont beaucoup plus courts. Point numéro 5. Que nous devrions apprendre du fait de vivre dans des demeures temporaires et que nous devrions désirer davantage nos corps spirituels glorifiés. Nous devrions désirer davantage nos corps spirituels glorifiés. Le fait de comprendre l'anatomie physique nous aide à mieux comprendre aussi le corps spirituel. Dans 1 Corinthiens 6, nous vivons donc dans des logements temporaires pendant la fête. Et une leçon que nous devons apprendre est que nous devons prendre soin de ce corps physique. Ce corps va vivre pendant 70, 80 ans, peut-être plus, si Dieu vous bénit et si vous prenez soin de votre corps. Nous avons la responsabilité maintenant. Dans 1 Corinthiens 6, 19, nous sommes très familiers avec ce verset. 1 Corinthiens 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Et le prix était le sang versé du Christ. C'est grâce à cela que nous avons pu être rachetés. Glorifiez donc Dieu. Nous avons une responsabilité. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. En observant la fête de Dieu, nous devrions également viser les meilleures valeurs possibles. Dans nos conversations, dans nos actions, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. Notre attitude et notre comportement doivent le glorifier. Et nous avons pendant la fête un environnement de qualité qui nous aide à atteindre cet objectif. Notre séjour ici est temporaire, comme j'ai déjà mentionné. Et notre tente temporaire, c'est-à-dire notre corps physique. Son but est de développer notre pensée, notre esprit, selon l'esprit et la pensée de Dieu, afin qu'il puisse développer son caractère en nous. Nous devons permettre à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit divin, de nous engendrer pour être enfants de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés et nous pourrons seulement naître de nouveau au retour du Christ. Jusque-là, nous ne pouvons pas être des êtres spirituels. Nous pouvons seulement être engendrés. Nous ne pouvons pas naître de nouveau. Il suffit de se frapper un orteil sur un pied de table pour se rendre compte que nous sommes bien vivants, bien physiques. Ça fait très mal. Veuillez vous reporter maintenant à la première épître de Jean, 1 Jean et le chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11, les versets 11 à 13. 1 Jean 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Une meilleure traduction pour le début de ce verset est que Dieu est en train de nous donner la vie éternelle, car nous ne l'avons pas encore reçue. Voici ce témoignage, c'est que Dieu est en train de nous donner la vie éternelle. Verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, ou que vous êtes en train d'obtenir la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est un processus qui n'est pas encore terminé. Nous sommes toujours dans un corps physique, nous sommes des êtres mortels et temporaires. J'avais parlé de Paul qui fabriquait des tentes. Veuillez vous reporter à 2 Corinthiens 5, une épître de Paul. 2 Corinthiens 5, au verset 1 à 5. Ici, Paul parle davantage de cet aspect de la brièveté des choses temporaires. Et il fait le parallèle avec les tentes. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente, ce corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce corps spirituel que nous attendons. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus, et non pas nu. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. En ayant les yeux tournés sur Dieu, sur son royaume, comme Abraham, en ayant les yeux fixés sur la demeure éternelle qui nous attend, alors que nous espérons tout cela, nous avons reçu les arts du Saint-Esprit comme une garantie en nous. Et lorsque le moment sera venu, nous recevrons l'entièreté de cette vie. Un dernier verset sur ce point. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Paul écrit ici, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Notre corps physique est destiné à être transformé. Si nous mourons avant le retour du Christ, si nous mourons dans la foi, notre corps retourne à la poussière. Et notre prochain instant de conscience sera dans un corps spirituel glorifié. Si nous sommes encore en vie, quand le Christ va revenir, nous serons changés, transformés en un clin d'œil. Nous serons transformés pour recevoir un corps spirituel purifié. Pendant cette fête des tabernacles, nous avons parfois des choses dans notre appartement ou demeure temporaire que nous n'aimons pas parce que c'est moins confortable, etc. Mais cela nous permet aussi de faire un parallèle avec notre vie et d'anticiper notre corps spirituel. Le cinquième point était donc de désirer notre corps glorifié davantage, de désirer davantage notre corps glorifié. Le dernier point pour aujourd'hui est que même le millénium est temporaire. Même le millénium est temporaire. La fête que nous célébrons actuellement dure 7 jours et elle représente le millénium qui lui-même est temporaire. Au début du millénium, il y aura beaucoup de gens qui auront été brisés physiquement et mentalement, comme nous l'avons entendu dans la sermonnette. Il y aura aussi les prémices, qui eux auront été ressuscités à la vie éternelle, ceux qui auront traversé les difficultés et qui feront partie de la famille de Dieu. Mais physiquement, il y a beaucoup de gens qui commenceront à apprendre et à pratiquer le mode de vie humain pour la toute première fois. Après la grande tribulation et le jour du Seigneur, les gens seront rassemblés. Les descendants d'Israël modernes seront rassemblés. Dans Amos 9, nous voyons que ces descendants d'Israël seront regroupés après la captivité à venir à la fin de cette ère. La grande tribulation qui va arriver sera pire que tout ce que l'humanité n'ait jamais connu. Et cette situation catastrophique durera jusqu'au retour du Christ. Dans Amos 9, au verset 13, juste après le prophète Jonas, Amos 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, et le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit l'Éternel, ton Dieu. Cela décrit les grandes bénédictions physiques que Dieu donnera à son peuple après le retour de Jésus-Christ. Ces peuples qui seront réinstaurés, remis en place dans le royaume de Dieu. Lorsque les villes seront aussi restaurées, les villes seront restaurées, il y aura des vignes, des arbres fruitiers. Tout le monde aura à nouveau sa propriété, son terrain, selon la volonté divine. Zacharie 14 nous le rappelle. Et que va-t-il arriver à ces gens pendant le millénium? Que vont-ils faire? Ils vont commencer à observer les fêtes. Ils vont apprendre les mêmes leçons que nous avons apprises. Même pendant le millénium, que nous célébrons maintenant, les gens apprendront aussi dans des demeures temporaires que la vie physique est temporaire. Et donc le millénium tout entier sera aussi temporaire. 1000 ans pour nous, par rapport à notre âge, que vous ayez 40, 50 ans, adolescent ou que vous ayez 100 ans, 1000 ans paraissent beaucoup. Mais nous voyons dans les Écritures, lorsqu'il est mentionné une durée physique de 70 ans pour la vie, 1000 ans font 14 générations, 980 ans, si je ne me trompe pas dans mes comptes. 14 générations de 70 ans chacune, 980 ans. Il y aura au moins 14 générations entre le début et la fin du millénium. Et bien sûr, il y en aura plus parce que les gens auront des enfants avant 70 ans, mais... Il y aura ainsi de très nombreuses générations. Ensuite, il y aura encore le jour du grand trône blanc, puis la nouvelle Jérusalem. Donc, vous voyez bien que le millénium n'est qu'une étape dans le plan de Dieu. Et à un moment, ces 1000 ans seront terminés, tout comme ces 6000 ans vont se terminer. Le millénium va se terminer aussi. C'est une autre leçon que nous devons également apprendre et que nous apprenons en vivant dans des demeures temporaires. que même le millénium est temporaire. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de quitter notre domicile et de passer 8 jours dans une demeure temporaire? Il veut que nous apprenions des leçons. Il y a ces leçons que nous avons vues aujourd'hui. Et Dieu veut que nous apprenions chacune de ces leçons. Peut-être avez-vous un logement moins confortable, moins d'espace personnel dans le logement temporaire. De la même manière, nous avons des inconvénients de la vie quotidienne. Mais cette fête est une opportunité pour apprendre des leçons importantes. Et c'est le but que Dieu avait en tête et a en tête pour cette fête. C'est pourquoi il nous demande de l'observer. Elle représente les années passées au désert par les enfants d'Israël. Et cela nous permet de nous focaliser sur Dieu, sur son but pour chacun d'entre nous. C'est aussi une époque de réjouissance, où nous, la fin de l'esclavage de ce monde, où les gens vivront selon Dieu, sous l'influence divine. Cela nous permet aussi de penser à notre rôle de voyageurs, de pèlerins, d'étrangers sur cette terre et dans ce monde. Nous avons le temps de nous focaliser sur le grand but que Dieu a en tête pour chacun d'entre nous. Nous avons reçu le privilège de comprendre le but de cette vie physique. Nous avons le privilège de comprendre et de croître. Nous avons le privilège de comprendre et de croître alors que Dieu nous fait traverser les épreuves de cette vie. Nous attendons, nous poursuivons l'objectif de voir un jour notre corps physique, notre tente, entre parenthèses, remplacé par un corps spirituel. Cela nous est rappelé alors que nous sommes pendant cette fête dans des demeures temporaires, que nous sommes également dans une demeure temporaire physique, une tente physique, ce corps. Chacun d'entre nous, pendant cette fête, doit vraiment s'efforcer de comprendre toutes les leçons que Dieu veut que nous apprenions du vivre dans une demeure temporaire.